Bonjour Philippe Langlois.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, second volet consacré à l'un des métiers du son au cinéma, le doublage.
Tout à fait Marlène, et pour compléter notre série débutée depuis 2 ans sur les métiers du son au cinéma, nous nous sommes penchés cette fois-ci sur les personnes chargées de doubler les films en langue française. Pour cela, nous nous sommes rendus en banlieue parisienne, à Aubervilliers, au sein de la société Mediadub, qui possède plusieurs auditoriums spécialement conçus pour ce travail. L'occasion pour nous de découvrir le monde fascinant du doublage. La semaine passée, nous évoquions les différents corps de métier qui interviennent en amont du travail en auditorium, celui de détecteur chargé de repérer le mouvement des lèvres dans la version originale, puis du travail d'adaptateur, enfin celui de calligraphe, prélude indispensable au travail en auditorium. Georges Caudron nous a gentiment reçus sur son plateau, où il officie en tant que chef de plateau. Il y achève le doublage d'une série télévisée et nous parle des différents aspects de son travail et des impératifs de cette profession. Georges Caudron, vous êtes directeur de plateau sur cette série coproduite par M6 qui s'appelle Relic Hunter. Accessoirement, vous prêtez également votre voix au personnage de Mulder, Fox Mulder dans X-Files. Déjà, pour commencer, peut-être, c'est quoi la voix de Mulder et qu'est-ce qui change de votre voix naturelle dans la voix de Mulder?
Attention, la vérité est ailleurs. L'accoutumance vous guette. Les extraterrestres sont parmi nous. Voilà, c'est ça la voix de Mulder, c'est une voix un petit peu plus calme que la mienne. Moi, je suis plus vivant que lui. J'ai rencontré Duchovny et je crois que lui joue aussi un petit peu de sa voix comme ça. Il le fait beaucoup plus calme qu'il n'est en réalité. Voilà, il le joue, quoi.
Agent Mulder, je suis Dana Scully, j'ai été chargée de vous assister.
Oh, est-ce que c'est agréable de se sentir tout à coup considéré et respecté? Dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait comme boulette pour échouer ici?
J'en sais rien, mais j'avais envie de travailler avec vous. J'ai beaucoup entendu parler
de vous. C'est vrai, ça? J'avais plutôt l'impression que vous étiez là pour m'espionner.
Si vous avez des doutes sur mes références, ma qualification ou encore mes capacités...
Je sais que vous êtes médecin, que vous enseignez à l'académie, que vous avez préparé une thèse de physique sur Einstein et la courbure de l'espace-temps. Nouvelle interprétation d'Anna Scully, thèse de recherche réécrire Einstein. Voilà une référence.
Vous avez pris la peine de lire ça?
Ah, bien sûr, oui, je l'ai apprécié. Sauf qu'en général, dans mon travail, les lois de la physique sont rarement respectées. N'empêche que je veux quand même connaître votre diagnostic là-dessus.
Quels sont les impératifs d'un chef de plateau? Comment ça se déroule une séance comme ça? Quel est le matériel à votre disposition et comment ça se passe?
Eh bien, d'abord, en amont, il y a le film. Donc, il y a quelqu'un qui détecte le texte, qui détecte le lipping, ce qui est les mouvements de bouche. Il y a quelqu'un qui adapte. Et puis ensuite, moi, je reçois le film, je reçois les images. Et donc, il faut que je trouve les acteurs qui sont totalement adéquats avec les personnages qui sont sur l'écran. Et mon travail, c'est vraiment de trouver la personnalité qui conviendra le mieux en respectant le talent, l'âge, la personnalité de l'acteur qui est sur l'écran. Et ça, c'est un travail très très amusant, c'est un casting qui est tout à fait précis et tout à fait particulier, puisqu'on ça, c'est pas tellement la voix qui nous intéresse, mais plutôt la nature et la façon de jouer du comédien.
Comment Merton travaillait-il?
De broc et de briques.
De briques et de broc, père Day.
Non, Merton raisonnait différemment.
Il est dans le coma. Il ne s'en sortira sûrement pas avant quelques jours. Malheureusement, nous ne pouvons pas attendre quelques jours.
Croft va être assassiné. Ridercroft? Hugh Ridercroft. Tout est prévu. L'attentat aura lieu aujourd'hui à midi.
Comment le savez-vous, Merton? Qui est derrière tout ça?
Je le sais parce que...
Qui est Ridercroft?
Un contrôleur du ministère de l'écologie.
Aujourd'hui à midi. Eh bien, ça ne nous laisse pas beaucoup de temps.
Qui est derrière tout ça?
Je le sais parce que...
Quel est ce bruit?
Le vent dans les arbres. Nous n'avons pas beaucoup de temps.
Nous allons à présent rejoindre Georges Caudron dans son auditorium d'Aubervilliers pour assister à la séance de doublage d'une série télévisée coproduite par M6 et qui s'intitule Relic Hunter.
Beckenbauer, tu m'as dit, ou un truc comme ça ?
Beckenbauer, le premier mot.
Just as she said, for 7 days and 7 nights, through the terrible storm, Galina has led us!
Is there left among you any who doubts my right to rule?
Eh bien, vous avez entendu d'abord la version originale, parce qu'on écoute plusieurs fois la version originale, bien entendu, pour s'en inspirer, pour voir exactement ce que l'acteur américain fait, parce que notre honneur de comédien français, c'est d'être absolument respectueux de ce qu'ils font, bien entendu, de donner exactement l'émotion. Moi, je dis souvent à mes acteurs de regarder les yeux, parce que les yeux donnent vraiment la façon de l'intériorité du personnage. Et les mouvements des épaules aussi, ça donne bien les impulsions qu'il a dans le personnage. Alors donc nous avons vu et entendu plusieurs fois la version anglaise, là parce que c'est un produit anglais, américain. Et ensuite, eh bien, on s'est efforcé de rendre la même émotion en français, c'est-à-dire d'adapter cette version américaine à la France, c'est-à-dire non seulement dans les mots, mais dans le jeu, dans la façon d'exprimer les choses. Ah là, on entend la bande qui redémarre.
Just as she said, for 7 days and 7 nights, through the terrible storm, Galina has led us!
Is there left among you any who doubts my right to rule?
C'est
Madame
Ketchup.
Ok, c'est parti.
C'est surtout royal, il est à cheval, il est. Ouais. C'est un chef de guerre, quoi, hein.
Comme elle nous l'avait promis, pendant 7 jours et 7 nuits, à travers une terrible tempête, Kaina nous a guidés.
Très bien, tout, on hein. Écoute, oui.
Comme elle nous l'avait promis, pendant 7 jours et 7 nuits, à travers une terrible tempête, Kaina nous a guidés.
Parfait ça, non
hein. Ça me paraît pas mal.
Allez,
non,
on va faire tout le monde.
Et vous dirigez ces acteurs, évidemment, vous êtes le directeur de plateau, c'est vous qui corrigez, qui souhaitez évidemment telle inflexion supplémentaire sur telle voix, un caractère différent sur une autre.
Oui, enfin moi je ne dirige pas trop, je suis un acteur qui aide un autre acteur, un copain, à s'exprimer et à être le mieux possible. C'est-à-dire que moi je le choisis et après je suis comme un coach de sportif. Je lui dis écoute, vas-y, donne-moi tout ce que tu peux. Et après, bon, je corrige quand c'est un petit peu trop ou un petit peu pas assez, évidemment. Je lui dis, moi je pense, est-ce que tu ne penses pas que, est-ce que tu ne crois pas que, mais je ne suis pas didactique, je suis, au contraire, j'écoute. Et je ris avec eux, et je crois que la meilleure direction de plateau, puisque nous copions quand même, il n'y a pas de création, on ne refait pas le film, hein. Nous copions quand même ce que l'acteur a fait, avec notre talent, avec notre personnalité, avec tout ce qu'on a, mais on ne peut pas refaire le film. Moi je ne suis pas un metteur en scène, quand je serai metteur en scène je ferai autre chose, mais là je dis à mon acteur, écoute bien ce qu'il fait, essaie de faire aussi bien et peut-être mieux que lui, mais essaie d'être vraiment le plus précis dans ton interprétation.
They're still in here. Fine.
Ils sont encore là. Trouvez-les.
Là, c'est un méchant de chez méchant. Très bien. C'est des archétypes, hein. C'est une série tout à fait... C'est comme à la recherche de l'arche perdue. Le méchant est méchant, le gentil est gentil. Faut donc jouer les archétypes.
Ils sont encore là. Trouvez-les.
Ensuite, on réécoute.
Ah ben, on réécoute et puis on corrige parce que parfois c'est un petit peu trop fort, un petit peu pas assez fort, un petit peu trop long, un petit peu pas assez long, et on essaie d'être le plus précis et le plus respectueux de ce qu'ils ont fait.
Et puis vous vous servez également pour mixer de ce qu'on appelle communément une VI dans le jargon, une version internationale.
C'est ça. Alors la version internationale comprend la musique, les cris, les bruitages très très forts, les choses un petit peu qui nous échappent, c'est-à-dire une arrivée de bateau ou des hurlements ou des choses comme ça. Là on a la VI qui est une version qui va jouer pour toutes les versions étrangères différentes en italien, en espagnol et tout ça.
VI. Qu'est-ce exactement qu'une VI, une version internationale ? Franck Louis, ingénieur du son.
Alors, une version internationale, en fin de compte, c'est une image. C'est ce qui va donner le relief à l'image, en dehors de la parole. C'est-à-dire, on va voir coucher sur des pistes, donc en règle générale en stéréo, toute l'illustration sonore du produit, du film, du téléfilm ou de la série. C'est-à-dire qu'on va voir les musiques, les ambiances et tout ce qui est bruitage. Donc voilà une version internationale, c'est ce qui va nous permettre de faire entrer après la parole française pour donner le relief à l'image. Voilà ce qu'est une version internationale.
Mais vous ne la retravaillez pas du tout, cette version internationale?
Justement, c'est ce que je suis en train de faire là. Je la vérifie de manière à voir si elle est complète. C'est-à-dire, s'il manque des bruitages, je fais un rapport et je les note de manière à ce qu'après, ça repasse à un autre poste de travail, donc dans les mains d'un bruiteur. Et je complète également tout ce qui manque au niveau des ambiances. C'est-à-dire, par exemple, ça se passe dans une rue avec beaucoup de monde et que l'on n'entend rien, on n'entend pas les gens marcher, on n'entend pas les gens parler. Nous, à ce moment-là, on a une sonothèque. Et là, je prends l'ambiance qui va me paraître adéquate, de manière à la mettre dans l'image.
Dans le milieu musical, les musiciens qui enregistrent un disque perçoivent une rémunération par la Spedidam, un organisme qui protège les droits d'interprétation lorsque ce disque est diffusé par exemple à la radio ou à la télévision. C'est précisément ce que l'on appelle les droits de l'interprète. En est-il de même pour la voix des doubleurs lorsqu'une série télévisée est rediffusée plusieurs fois ? Bertrand Libert, comédien.
En ce qui concerne les acteurs, jusqu'à présent, jusqu'en 1994, nous n'avions droit à rien. Ce qui fait qu'une série comme, pour ne pas la citer, une série comme Starkey Hutch, qui en est à sa 20e diffusion, je crois, c'est quelque chose de faramineux, est une série qui a rapporté une vingtaine de cachets aux intervenants principaux, hein, puisqu'il y a eu 20 ou 24 épisodes, point barre. La série a été utilisée jusqu'à ce qu'on voit à travers la pellicule pendant je ne sais plus combien d'années sans que les acteurs touchent un centime. Et c'était ça notre gros problème, c'est donc d'éviter l'usure de la voix. Parce que quand on repasse une série 20 fois, on dit « Oh, bah, cette voix-là, on l'entend tout le temps. » On l'entend tout le temps, mais elle ne rapporte rien à son propriétaire.
Également, quand ces œuvres repassent, elles génèrent tout de même des profits. Je veux dire, elles sont revendues, les chaînes se rachètent Chapeau Melon, enfin toutes les grandes séries, je ne sais pas si on peut dire séries cultes, mais enfin c'est vrai que toutes ces séries génèrent tout de même des profits. Et on s'aperçoit, nous cruellement, que les comédiens qui ont participé au doublage, eux ne retirent aucun profit de ces ventes, reventes à l'infini, et que malgré tout, il y a, comme disait Bertrand, une usure des voix, c'est que tout d'un coup on va dire « Ah bah oui, mais un tel, on l'a entendu énormément, on ne peut plus le réengager parce qu'on connaît trop sa voix. »
Bobino, la bête, aftershave, le challenger, 7e prix.
Tâchez de le faire bien. Action.
Salut, moi je m'appelle Rocky Balboa, je suis les talons italiens et aussi le rêve américain seulement, mais en tout cas, j'ai le droit de recommencer.
Créneau, coupez, pas toi, laisse ta caméra tourner, ne coupe pas, laisse, alors lisez le prompteur, là, le pense-bête.
Le pense-bête?
Je vous en prie, reprenons.
Une minute, je vais vous expliquer un petit truc, vous savez, moi je suis pas sonneur, d'accord, je Je suis assez lent à la comprenette, mais je suis passionné, vous savez. C'est comme ça que je cause dans la vie.
On est bien avancé. Vous pouvez essayer de dire ce qui est écrit, peut-être.
Non, mais là, ça va pas. Il y a quelque chose qui cloche dans votre histoire. Là.
Qu'est-ce qui ne va pas?
Vous êtes mal élevé. Moi, je fais plein d'efforts, vous êtes mal élevé. Hein, qu'il est mal pelé, Adriana, hein?
Ah oui.
Alors, je vais vous dire, il faudrait que je sois vraiment sonné pour faire vos âneries devant ma femme.
Vous voulez plaquer? Alors, salut! Tirez-vous! Foutez le camp! Depuis le début, je ne voulais pas que vous soyez dans le coup. Vous nous avez fait perdre notre temps, mon vieux. Maintenant, c'est le vide total. Tout l'après-midi est foutu. Léonard, où allez-vous? Emmenez-moi ce zigoto, Léonard. Emmenez-moi cet ostrogo. Ce n'est pas un professionnel. Je ne travaille qu'avec des professionnels. Vous nous avez coûté des milliers de dollars, espèce d'illettré.
Ah non, ne m'insultez pas, s'écria le va-nu-pied. Par le ciel, frère, attrapez vos fusils et cachez-vous. Alors, qu'est-ce que t'en dis?
Excellent.
Mmh. Savoir bien lire, ça m'aidera certainement à trouver un emploi de bureau, tu crois pas? Je te lis un autre passage?
Oui, avec plaisir.
Il y a quelque chose d'assez étonnant aussi quand on rentre dans ce métier du doublage et qu'on voit tous les rouages qui se mettent en place pour effectuer le doublage d'un film, alors que finalement votre travail, le propre de votre travail est de ne pas être remarqué pour être bien fait, c'est ça?
Voilà. Alors moi je regrette qu'une chose dans la critique du doublage, c'est qu'on ne dit que le doublage existe que quand on dit il est mauvais. Jamais, quand ça va de soi, quand le mixage est bien fait, le doublage est bien fait, on a l'impression que c'est un film français, que c'est très bien. Et vous voyez des tas de films au cinéma ou à la télévision qui sont remarquablement doublés avec de très très bons comédiens. Et personne ne dit ça, c'est du bon travail. Alors que quand il y a un raté, un truc qui est vraiment pas bien, on est les premiers dans notre catégorie d'acteurs à le reconnaître. Il y a des doublages qui sont très très mal faits. Alors là, on nous tombe dessus en disant, vous voyez, c'est le doublage est nul et tout ça, alors qu'il y a des très très bons doublages et on ne s'en rend pas compte, on ne le dit pas. Moi, je souhaiterais vraiment une critique du doublage, une vraie critique, en disant celui-là est bien, celui-là est pas bien, et ça ferait ressortir notre travail, bien sûr.
Il n'y a aucun prix en France sur les meilleurs doublages, non?
Non, pas du tout, non. Mais on se reconnaît entre nous. Et quand on va voir un film où vraiment on dit ça, ce travail-là était très bien. D'ailleurs, quand on arrive sur un plateau, moi quand je suis comédien, que j'arrive sur un plateau, puis que je vois il y a différents acteurs, d'une certaine famille d'acteurs, on dit « Ah ben on va s'amuser, on va faire du bon boulot ». Et parfois, moi, ils me font pleurer. Hein. J'ai les larmes aux yeux, ou je ris sur les boucles d'ailleurs, parce que je suis le premier client, quoi. Je suis... Avec mon ingénieur, on rit et on pleure avec eux, quoi.
Picotine, picota, oh, je ne peux pas le croire. Picotine, picota, ce n'est pas vrai.
Rassure-toi, fiston, t'es pas le premier mec dont la femme fait picotis avec un autre.
Je n'arrive pas à le croire. Je n'arrive pas à le croire.
Crois-le, mon petit. C'est moi-même qui ai pris ces photos. Elle faisait bien picota.
Pas Magnifica, pas picota. C'est impossible. Je ne le crois pas. Ça ne se peut pas. Ça n'est pas possible. Jessica est ma femme. C'est absolument impossible. Jessica est la lumière de ma vie, la prunelle de mes yeux, la crème dans mon café.
Tu ferais mieux de commencer à le prendre noir, c'est Acme qui se tape la crème.
C'est difficile à croire, Marvin Acme est mon ami et mon voisin depuis 30 ans. Qui aurait cru que c'était un tonton gâteau?
Quelqu'un a dû l'obliger à le faire.
Allez, bois ça, fiston, tu vas tout de suite te sentir mieux.
Vous faites un métier formidable, Georges Caudron, non?
Ah, moi, j'adore ça. Moi, ça a été une grande surprise de découvrir ce métier que j'ai trouvé sur le tard, parce qu'au début, je faisais de la radio, je faisais de la télé, je faisais du théâtre. Et je dois dire que j'ai un grand, grand plaisir à faire ça, parce que c'est comme le travail avec le masque. On est comme dans la Commedia dell'arte, on habille un personnage de l'intérieur, on lui prête sa voix, on lui prête son intériorité, et c'est absolument génial à faire, et un très bon doublage me ravit, et quand j'entends des copains qui sont vraiment très bien, c'est un grand plaisir pour moi.
Merci, j'en avais besoin.
Roger,
oui.
Je sais que ça peut faire mal sur le moment, mais tu trouveras quelqu'un d'autre. N'est-ce pas, Monsieur Valiant?
Bien sûr. Un beau mec comme lui. Les gonzesses vont faire le pied de grue devant sa porte.
Les gonzesses? Quelles gonzesses? Il n'y a que Jessica pour moi. Vous verrez, nous allons surmonter ces petites pécadilles. Et nous serons à nouveau heureux. Vous comprenez? Heureux. Non.
Luc Hamet qui double la voix de Roger Rabbit et Marc de Georgie pour la voix de Eddie Valiant. Cette émission touche à sa fin. Un grand merci à Vincent Violette et Aurélie Crignon qui nous ont aidés à préparer ce programme. Mixage David Benhamou, réalisation Gilles Mardi-Rossian. Tu vois ce que j'entends, vous est proposé par Philippe Langlois.